c'est un fort beau, confortable et énorme crapaud. Je lui ai gratté la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. C'est une chose, c'est un détail qui a son importance, mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent.
Eh bien, je suis content que vous nous révéliez ce détail.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire à Colette lorsqu'on l'entend comme ça ? Bonjour à tous, bienvenue sur ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Maxime Anna à la technique et assistée de Stéphane Combe, sans oublier Albert Hook, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Et ceci va débuter par une petite humeur. Vous le savez, tout le monde sait que le train de sénateur n'a pas grand-chose à voir avec l'allure d'un sprinter. La chambre haute du Parlement privilégie de loin le trot au galop et pourtant, dans certaines circonstances, le Sénat est capable de légiférer avec la célérité d'un TGV lancé à pleine vitesse. Notamment lorsqu'il s'agit, comme jeudi dernier, de défendre la boutique des semenciers. Eh ben oui, c'est normal que nos élus viennent à la rescousse d'entreprises performantes qui ne cherchent qu'à œuvrer pour le bonheur de l'humanité en protégeant leurs brevets. Entreprises qui, au demeurant, se retrouvent fort démunies face à de passéistes paysans qui persistent à vouloir conserver des graines issues de leur propre récolte d'une année sur l'autre en vue des semis futurs, voire les échanger avec d'autres agriculteurs. Il paraît qu'avec ces semences dites de ferme, il y a le monde agricole a toujours procédé de la sorte. Vous imaginez le toupet. Et ainsi, hop, au nom d'une prétendue défense de la biodiversité et d'une non moins extravagante sécurité alimentaire, voilà-t-il pas que l'on alimente un marché parallèle. Comme si on pataugeait encore dans la boue du néolithique. C'est assez affligeant quand même de voir des gens aussi réfractaires à la modernité. Alors évidemment, ce n'est pas dans les rangs de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles d'Île-de-France, qui cette semaine a tenté de bloquer la capitale avec de gros tracteurs, qu'il faut chercher de tels irresponsables. Non, chez les céréaliers de la FDSEA, on a bien conscience des intérêts supérieurs et l'on sait que ce qui est redistribué au nom de la nouvelle PAC, aux éleveurs montagnards entre autres en grande précarité, c'est toujours ça de moins que l'on aura pour financer le rutilant 4x4 de ses rêves. Bernard Maris le rappelait ce matin, 10 000 exploitations se partagent 6 milliards d'euros en France de la PAC. Alors certes, attention, cela ne reflète pas la situation de tous les céréaliers, mais le contribuable que nous sommes a quand même le droit de s'interroger. Donc heureusement, ce jeudi, nos sénateurs ont choisi de remettre un peu d'ordre dans le landerneau agricole. Et c'est ainsi que désormais, tout agriculteur qui ne disposera pas de facture pour ses semences, ses animaux reproducteurs ou ses préparations naturelles sera a priori considéré comme un dangereux délinquant. Allez, les sacs à main, les polos Lacoste, les semences, même combat. Et oui, on ne rigole pas avec la contrefaçon. D'autant que tout agriculteur qui utiliserait ses propres semences contaminées par des gènes brevetés ou contenant naturellement un gène protégé par un brevet, eh bien deviendrait un contrefacteur passible des galères. Donc plus de doute, le progrès est en marche. Nos élus sénateurs ont bien saisi que l'avenir consiste à breveter l'intégralité du vivant et bien sûr pour le paysan, à repasser à la caisse chaque année pour pouvoir ensemencer ses champs. Le carnet de chèques, ça a quand même une autre allure que ces pratiques d'échange totalement révolues. En somme, paysans d'ici et d'ailleurs, prenez-en de la graine, mais n'oubliez pas au préalable de casser votre tirelire à l'effigie d'un joli petit cochon rose nourri au soja transgénique brésilien. Et tenez, moi je me demande si ce monsieur Pierre Larouze, vous savez, si ce type qui souffle à tous les vents sur ses pissenlits, bah d'où ils viennent ces pissenlits ? Larouze possède-t-il bien toutes ses factures en bonne et due forme ? C'est à vérifier d'urgence. Et ben voilà, Didier Van Kovlart, bonjour à vous.
Bonjour.
Donc bah oui, vous êtes un peu étonné de tout ce qui se passe aussi. Et pourtant, en fait, vous intéressez-vous à l'environnement.
Non, je suis pas étonné. Je suis consterné depuis longtemps oui. Sur ces sujets-là. Dès qu'on a commencé à breveter le vivant et à présenter ça comme une chose naturelle, l'appareil législatif s'est mis en route derrière aux commandes des industries. Voilà, il faut se rappeler que... En Amazonie, par exemple, il y a des tas de plantes qui ont été brevetées, non pas parce que, en tant que plante, mais en tant qu'usage qu'on peut en faire. C'est ça l'astuce. Et les Indiens n'ont plus le droit de les cueillir, de cueillir leurs plantes médicinales. On leur a volé leur savoir et on leur vole les plantes avec lesquelles ils se soignent. Et c'est ce qui arrive là avec ce scandale des semenciers qui, d'un coup, prennent en otage... Ces paysans, même ceux qui ont reçu, disséminés par le vent, des graines OGM, peuvent être mis en prison.
C'est exactement ça. D'ailleurs, vous l'avez très bien raconté, cette histoire aussi en Amazonie, dans un livre qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Double identité ». Donc, vous êtes rédacteur en chef, hein, vous le savez, Didier Van Kovelaert, aujourd'hui de cette émission, avec différents sujets. On va beaucoup parler d'abeilles avec cet ouvrage qui s'appelle « Les abeilles et la vie ». Mais pour continuer, on va dire ce petit point sur ces semences, un homme qui intervient tout à fait régulièrement, c'est Frédéric Denhoy dans cette émission. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis, bonjour Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez sorti un ouvrage aussi qui était assez chaud, vous avez fait OGM, le vrai du faux, donc c'était tout à fait intéressant, vous vous intéressez à ces semences. Déjà peut-être réaction par rapport à ce qu'a fait passer le Sénat, enfin ce que voudrait faire passer le Sénat?
Effectivement, en apparence ça n'est rien du tout, c'est juste un petit article, hein. C'est le L623-4 qui range les plantes, les productions végétales au même rang que les sacs à main, que les logiciels informatiques, que tout ce qui est susceptible d'être contrefait. Voilà, en apparence, c'est rien du tout, et c'est même logique, parce qu'il faut bien que les semenciers gagnent de l'argent, enfin en tout cas rentabilisent leurs investissements, et c'est assez logique dans notre économie de la connaissance qui ne gagne plus d'argent que par le brevetage de ses inventions et de ses découvertes. Sauf que le verre est dans le fruit, et on voit bien, et vous l'avez dit, et Didier l'a dit, que derrière tout ça, c'est la remise en cause totale de la philosophie même, de l'essence même du métier d'agriculteur. C'est-à-dire que demain, l'agriculteur, l'essence même de la vie, qui est celui de la reproduction, de la germination d'une plante, sera considérée comme du vol.
Donc on souhaite encadrer le vivant, c'est pas forcément se l'approprier totalement, mais en tout cas bien l'encadrer.
C'est plus que l'encadrer. En fait, on veut clôturer le génome, comme on a clôturé les champs, et chaque bout de génome appartiendra à une entreprise, et quiconque voudra semer, utiliser une plante, devra faire très attention à ce que dans cette plante, il n'y ait pas un bout de génome qui ait déjà fait l'objet d'un brevet. Et le plus amusant, c'est que les petits semenciers européens luttent contre ça, contre les grands semenciers, parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes ne pourront plus continuer à proposer sur le marché aux agriculteurs des semences un peu nouvelles. Faut bien comprendre que derrière tout ça, derrière cette idée de brevetage, c'est la négation même de l'essence même de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de reproduction. L'essence de la vie, c'est bien la reproduction gratuite. Le brevetage interdit toute reproduction gratuite par le geste de l'agriculteur, parce qu'il le considère comme de la piraterie, tout simplement.
L'aléatoire de la nature, donc, évidemment, est un peu arrangé au placard. Didier Van Kovelaert.
Quand j'écrivais mon roman L'Évangile de Jimmy, j'ai fait une découverte hallucinante.
On va juste rappeler qu'en fait, c'était l'histoire quand même du clonage de Jésus-Christ à partir du suaire de Turin. Donc on récupérait de l'ADN.
Du sang et de l'ADN du linceul de Turin. Et disons qu'on fait croire, les envoyés de la Maison-Blanche font croire à un réparateur de piscine qu'il est le clone du Christ fabriqué à partir de cet ADN. Voilà. Et là, je découvre, en écrivant cette fiction, que le brevet du clonage humain existe. C'est-à-dire, c'est un brevet qui a été pris pour le clonage animal, dans lequel il est spécifié que ce brevet concerne les techniques de clonage sur les animaux, entre autres. Et donc, à partir de ce procédé de clonage qui avait servi pour la brebis d'Oly, etc., il englobe toute forme de vie, y compris la vie humaine. Donc, que le clonage humain soit un fantasme, soit la secte Raleigh prétendue, clonage humain, mais que ce soit une réalité ou non, l'appareil juridique est déjà
en place.
C'est-à-dire que c'est ce procédé qui est breveté, qu'il s'applique à une plante, à un animal ou à un être humain. Et donc, puisqu'on a parlé tout à l'heure des abeilles, je crois qu'il faut d'urgence détruire les abeilles, car elles ont volé des OGM.
Bien sûr.
Les gènes mutants du colza sont passés dans les intestins des abeilles, causes de leur disparition aussi. Donc, en plus, il faut punir les abeilles.
Oui.
Maintenant, la loi le permet. Non, on marche sur la tête.
Alors Frédéric, on marche pas mieux sur la tête, mais c'est encore aussi une porte ouverte, peut-être davantage, aux OGM encore mieux encadrés.
C'est évident. Si vous voulez, le risque réel, biologiquement fondé, de la dissémination des OGM qui s'en iraient et qui s'en vont déjà contaminer notre champ, il est formidablement accentué par ce dont on vient de parler. Le risque, il est avant tout juridique, c'est-à-dire qu'à partir du moment, vous l'avez dit tous les deux, à partir du moment où sur un champ, un agriculteur constaterait que des graines OGM qui sont tombées du camion ont germé sur son territoire, immédiatement, il peut être accusé, et ça a été le cas aux États-Unis et au Canada, il peut être accusé d'avoir fraudé. Et à partir de ce moment-là, comme l'agriculteur en question n'aura jamais les moyens d'aller en justice contre un grand semencier, ben, il sera obligé de signer un contrat l'obligeant, de fait, à cultiver des cultures OGM. Et ça, c'est le grand danger, c'est la grande peur. Je reviens d'un colloque au Québec là-dessus. C'est la grande peur des agriculteurs dits conventionnels au Canada. C'est qu'ils sentent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir lutter à cause de ça. Contre les OGM, le risque de dissémination, il est avant tout juridique.
Voilà, bienvenue dans un monde meilleur, donc dans cette émission. Merci Frédéric, on vous retrouve Merci. Tout à fait prochainement. Et puis on va poursuivre ce voyage dans l'univers de Didier Van Kovelaert, qui est rédacteur en chef de cette émission. On va parler abeilles, on va rejoindre Jean-Marie Pelt, on va vous emmener dans le Limousin, enfin il y a plein de choses. Notre première chanson peut-être, oui, c'est Soul. Pleure, non, pas du tout, non, je sais pas. L'économie des mots, c'est sûr que c'est le titre ça, ah oui.
De mon amour, Denis Chessou.
Ah oui, mais pas tout seul. Bah non, avec Didier Van Kovelaert aujourd'hui, avec Jean-Marie Pelt qu'on va rejoindre dans quelques instants. Alors c'est très intéressant, Didier Van Kovelaert, parce que en fait, tout petit, enfin en tout cas adolescent, vous êtes devenu, on va dire, écologiste, grâce entre autres à Jean-Marie Pelt. Et vous lui rendez hommage dans ce dictionnaire de l'impossible édité chez Plon.
Oui, sur France Inter et sur TMC, toutes ces extraordinaires émissions sur l'aventure mystérieuse des plantes. M'ont ouvert des abîmes de passion, de réflexion sur l'intelligence de la nature, sur l'imagination de la nature, sur les liens, les connexions entre les végétaux, les animaux, toute cette organisation fantastique où des observations, des explications renforcent toujours le mystère. On a l'impression qu'on a réponse à une question et en fait on ne fait qu'approfondir la question de réponse en réponse. C'est sans fin. Les gens comme Jean-Marie Pelt sont totalement indispensables parce qu'ils réenchantent la réalité en montrant tout ce qu'elle a de dimension de rêve organisé. Et combien tout ça fonctionne. Et malheureusement, l'homme vient détruire des choses qui sont irréparables ensuite. Et c'est vrai que j'ai eu la grande chance de me nourrir avec Jean-Marie Pelt et de le rencontrer ensuite, de découvrir qu'il lisait mes livres. Ça, c'est les beaux cadeaux de la vie, ça. Et voilà, Jean-Marie Pelt qui, dès les années 90, avait prévu tout ce qui se passe aujourd'hui sur les OGM avec Gilles-Éric Séralini, je me rappelle, à Sciences Frontières, le festival Cavaillon de Jean-Yves Casga. Il avait tout expliqué à Corinne Lepage, alors ministre de l'Environnement, qui est rentrée à Paris, qui a interdit les OGM. Et puis les élections ont eu lieu et Dominique Voynet, derrière, la droite avait dit non, elle a dit oui, sans réfléchir aux conséquences, à mon avis.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu un marchandage donc, à l'époque, on ne va pas revenir dessus, entre une centrale nucléaire et puis aussi le canal Rhin-Rhône. Donc il y avait eu tout ça qui était... Donc, on avait arrêté donc, aussi du côté du budget ce qu'il fallait. Donc c'était ça, c'était effectivement de la politique. Jean-Marie Pelt est avec nous. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour, bonjour à tous et surtout bonjour à Niquet.
Bonjour Jean-Marie.
Je suis très content d'entendre et de partager avec lui quelques instants.
Bon, donc moi je sens le pâté, quoi. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, cher Jean-Marie, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. Vous êtes frigorifié du côté de la Lorraine, donc on vous a laissé donc, chez vous. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de cette intelligence du végétal, lorsqu'on accole le mot intelligence et végétal ?
Ça m'a toujours beaucoup interrogé parce que je pense qu'il y a de l'intelligence dans la nature. Quand on voit comment les plantes, surtout dans mon cas, mais aussi les animaux, fonctionnent, on a le sentiment que si eux n'ont pas conscience de fonctionner comme ils fonctionnent, nous avons la capacité d'observer que leurs comportements ont quelque chose effectivement d'intelligent. Alors on pourrait prendre d'innombrables exemples dans son dernier livre sur ce qui est impossible et pourtant
Dictionnaire de l'impossible,
se produit. Oui. Absolument, dictionnaire de l'impossible. Didier prend d'innombrables exemples, et en particulier chez les plantes. On va en prendre un. C'est l'histoire de Slama, qui est un...
Le journal qui tue.
C'est ça, spécialiste des insectes. Il vit à Prague, il y a le printemps de Prague, il y a la répression immédiate et brutale des Russes. Il part aux États-Unis. Il emmène avec lui les punaises sur lesquelles il travaille, qu'on appelle la punaise européenne, et il l'installe dans des petites boîtes sur des feuilles de papier coupées pour aller dans la boîte. Et puis voilà-t-il pas que les punaises ont des comportements différents aux États-Unis qu'elles n'ont chez lui à Prague. Et notamment un dysfonctionnement des deux hormones qui font fonctionner les métamorphoses. L'une est un accélérateur qui précipite le rythme des métamorphoses, ça s'appelle l'exosome. L'autre est un frein, c'est l'hormone dite juvénile, qui au contraire freine les métamorphoses et les multiplie avant que l'insecte devienne un insecte parfait. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment, il a le sentiment, qu'il y a de l'hormone juvénile à quelque part, parce que ces punaises, au lieu de faire 5 métamorphoses comme en Tchécoslovaquie à Prague, en font 6 et parfois 7. Alors il cherche de tous les côtés où il pourrait y avoir de cette fameuse hormone. Dans le laboratoire, est-ce qu'il y a un produit chimique qui peut avoir cette propriété ? Il ne trouve pas. Alors il s'acharne et il découvre que c'est le papier.
C'est le journal.
Oui. Le papier journal.
Sur lequel elles sont conservées.
C'est le New York Times, voilà, sur lequel les punaises sont élevées. Alors en allant plus loin, il s'aperçoit que ce papier est fabriqué avec un sapin qu'on appelle le sapin balsamique ou le sapin broumier. Alors on étudie du coup le sapin en question et on s'aperçoit que ce sapin produit en effet des hormones juvéniles d'insectes. Ce qui est très avantageux pour lui parce que ça met les insectes qui voudraient aller sur lui en mauvais état. Et alors il teste ce New York Times, ça marche avec 7 métamorphoses, le Times de Londres absolument pas, parce qu'il n'est pas fabriqué le papier du Times de Londres avec les mêmes arbres en Europe, la Pravda ça marche pas non plus, j'allais dire, sans doute que le Républicain aura notre journal, n'aurait pas marché non plus.
Et c'est pas la faute de la ligne éditoriale, hein, c'est vraiment la faute du papier avec lequel il est fabriqué.
C'est la faute du papier.
Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, Jean-Marie, c'est que, bon, d'accord, les arbres fabriquent cette hormone, mais après, Tout le travail qui fabrique, qui transforme l'arbre en pâte à papier, tout ce broyage, ces produits chimiques, cette hormone est encore efficace et l'arbre continue à titre posthume à se débarrasser des punaises alors qu'il est sous forme de pâte à papier.
Tout à fait, tout à fait. Il se débarrasse des punaises à longue distance. C'est comme les drones. C'est très surprenant. C'est une très belle histoire. Voilà, quand on a raconté, qu'on trouve dans votre livre sur le dictionnaire de l'impossible, on pourrait parler aussi d'un acacia qui s'appelle l'acacia cornigera.
Et qui est lié aux fourmis, là.
Il est lié aux fourmis. Il est porteur de cornes, ça ne veut pas dire qu'il est cocu, ça veut dire qu'il y a effectivement des épines qui sont divisées en deux par le milieu, de sorte qu'il y a deux chambres dans les épines et que les fourmis y habitent. Alors elles ont une chambre, ce qui est la chambre à coucher, et puis une chambre qui est la salle à manger. Parce que dans la salle à manger, il y a des glandes qui donnent effectivement de la nourriture aux fourmis. Donc les fourmis ont à la fois... le couvert et l'habitat, et elles sont nourries, logées, et pour payer, elles ne versent pas des euros ni des dollars, parce que ce sont des fourmis, mais elles défendent avec acharnement l'acacia dès que d'autres insectes voudraient jouer aux prédateurs contre lui. Et donc il y a un échange de services remarquable.
Et elles chassent, et les fourmis, c'est ce que j'ai appris, les fourmis chassent pour nourrir l'arbre, elles attrapent des larves qu'elles donnent à l'arbre. Et on a vu en rendant ces larves radioactives, on voit leur cheminement à l'intérieur des feuilles de ces arbres. Ces échanges, c'est absolument renversant. Et alors, je voudrais, Jean-Marie, vous vous lancez sur un terrain que vous êtes l'un des seuls à avoir exploré, et je rapporte vos travaux, vos découvertes dans le dictionnaire de l'impossible. Évidemment, on est éberlué par cette intelligence, ces connexions entre le végétal et l'animal. Mais quand vous racontez l'apparition de la vie sur Terre, telle que nous le démontrent aujourd'hui les fossiles, il y a cette fameuse algue brune qui, il y a 3 milliards d'années, qui est condamnée à flotter jusqu'au jour où elle se fait pousser des cils et elle peut se déplacer elle-même. Et alors là, elle se crée une bouche de manière à pouvoir se nourrir. Et apparemment, le premier être animal serait venu de cet être végétal.
Oui, très probablement, l'une des manières dont les animaux sont apparus à l'origine, ça peut être, et c'est sans aucun doute, la transformation d'une algue qui est évidemment un végétal. Alors cette algue, elle perd sa capacité de fabriquer de la chlorophylle, mais en même temps, elle gagne par sa morphologie une bouche par laquelle elle peut avaler des proies. Comme la plupart, pratiquement tous les animaux, elle est mobile par un cil et on passe donc insensiblement du végétal à l'animal. Et chose très étonnante, c'est qu'on a les états intermédiaires, où il y a encore un peu d'animal et un peu de végétal. C'est toute une série qui va de l'algue aux premiers animaux marins.
Mais ça, vous avez été un des premiers vraiment à le raconter aussi dans Mes plus belles histoires de plantes. Et on a retrouvé un fossile en Rhodésie.
Oui, dans les fossiles calcaires de Rhodésie, on a... Voilà, ce sont des découvertes que le microscope électronique nous a permis de faire à partir de ces fossiles. Je trouve que c'est absolument capital de raconter d'où nous venons. C'est passionnant de s'intéresser au Big Bang, mais c'est pour moi encore plus passionnant de s'intéresser à l'apparition de la vie. Dans les moments où les fondamentalismes reviennent nous raconter des histoires à dormir debout au nom desquelles ils vont se démolir mutuellement, qui a créé la vie, etc. Je pense que Dieu soit dans l'organisation de toute cette intelligence, ou qu'il n'y soit pas, ce qui compte, c'est cette intelligence de la vie fondée quand même très souvent sur la symbiose, sur l'amour. Et ça commence dès les bactéries, puisque nous venons tous de la bactérie initiale qui a arrêté de se cloner pour découvrir la mortalité et donc la biodiversité et donc l'amour, les échanges.
Et ça, vous l'aviez très bien raconté aussi, Jean-Marie, à la fois dans un ouvrage qui s'appelait « La loi de la jungle » et puis donc après sur la coopération. Alors moi, ce que je vous propose, puisqu'on va rester un peu dans le domaine, du végétal, c'est de vous emmener à la galerie botanique du Muséum national d'histoire naturelle. Pourquoi ? Parce que cette galerie va donc rouvrir le 27 novembre. On va rappeler qu'il y a quand même 8 millions de spécimens du monde entier qui se trouvent donc dans cet immense herbier. Là, on peut penser aux anciens tels Jussieu, Von Humboldt, avec toutes ces expéditions, ainsi que l'expédition de la Pérouse. On retrouve là aussi beaucoup de plantes de cette époque. Et on va donc découvrir un peu mieux cet herbier qui ouvre, je vous le rappelle, le 27 novembre pour le grand public, avec une galerie d'exposition sur la botanique, avec Odile Poncy, qui était chef de chantier de la rénovation de ce lieu, et puis Thomas Avermans, qui est le responsable de l'équipe botanique, chargé de la conservation aussi des monocotylédones. Et là, on va voir un géant pour débuter. Thomas, alors là, on est face à une coupe d'arbres. Combien de mètres ?
Il fait facilement 4 mètres. C'est notre plus gros échantillon. Ouais. C'est une tranche de séquoia géant d'Amérique qui nous a été offert en 1927. Et dessus, on peut voir inscrit, donc chaque strie indique une année, et on peut voir inscrit sur cette tranche les principales dates de l'histoire.
On a Jeanne d'Arc qui délivre Orléans en 1429.
Sur la périphérie, donc il était déjà assez vieux.
Oui.
On a les Huns qui envahissent.
Plus on se rapproche du centre, évidemment, plus il est jeune.
En 451. La destruction de Pompéi, la naissance de Jésus-Christ. Et là, l'arbre était déjà âgé d'une quarantaine d'années à ce moment-là. Chaque strie permet de garder une histoire du climat, en fait. En fonction de son importance, on sait si le climat était favorable ou pas cette année-là.
Alors là, attendez, là je vois des pommes de terre. Donc elles ne sont pas écrasées, elles ne sont pas à l'état de purée, mais elles sont quand même à l'état d'herbier. Il y a énormément de...
On a des spécimens très anciens de pommes de terre qui permettent d'étudier après coup l'histoire de l'introduction de cette plante en Europe.
Oui.
On a vraiment énormément de plantes utiles et plantes médicinales. On a aussi les premiers herbiers de caféier quand ils ont été introduits pour être cultivés dans les serres ici et qui ont été ensuite introduits aux Antilles. Et on a les herbiers de la plante cultivée aux Antilles après.
Rappelez-nous quand même quel est l'intérêt de conserver tout cela. Qu'est-ce que l'on fait ? Ça va intéresser qui ? Les chercheurs ? Les générations futures ?
Alors, cet herbier a été constitué tout d'abord pour avoir des témoins secs de plantes médicinales, à l'époque où le jardin était un jardin des plantes médicinales. Aujourd'hui, tous les spécimens que l'on a ici intéressent des gens qui s'occupent de conservation, de la biodiversité, de protection d'espaces naturels, des gens qui étudient les impacts du changement climatique, par exemple.
Allez, sortez votre boîte au trésor, là. Voilà. Bon, des pochettes cartonnées, évidemment.
Waouh. Donc là, on a des bananiers. Donc on a toute une collection de bananiers qui ont été récoltés au Vietnam. Alors en 1930.
Voilà.
Alors vous voyez bien sur la pochette qu'il n'y a pas de nom. Donc en fait, une grosse partie de la collection n'a pas encore été étudiée par un botaniste. La collection est tellement gigantesque qu'on ne peut pas avoir assez de botanistes pour travailler sur toutes les plantes. Donc il faut que quelqu'un s'intéresse à un groupe de plantes données pour mettre un nom sur chacune des plantes. Et en faisant ça, on peut découvrir de nouvelles espèces dans l'herbier. Donc la première exploration peut se faire justement sur ces plantes qu'on a ici.
Alors qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas, Thomas ? On a à peu près 350 000 de plantes à fleurs, mais il reste encore plein de choses à découvrir.
Oui, il reste énormément de plantes à découvrir. À chaque fois qu'on va à Madagascar, dès qu'on sort de la voiture, on sait qu'on va trouver des plantes nouvelles. Par contre, on a du mal à estimer combien de choses restent à décrire. Le nombre de plantes finales devrait plafonner autour de 400-500 000 plantes. On n'a aucune idée du temps nécessaire pour pouvoir décrire toutes ces plantes.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce boulot que vous faites ?
Ce qui me plaît, c'est de pouvoir toucher l'histoire, en fait. En lisant les livres qu'on a ici, en regardant les spécimens, et puis en ayant l'occasion de partir sur le terrain, faire des expéditions, c'est vraiment... touché à l'histoire de l'exploration naturaliste.
C'est vraiment génial de pouvoir travailler dans cet herbier, arriver directement trouver ce qu'on cherche, sans avoir à ouvrir des casiers avec des clapets compliqués. Donc là, j'y vais directement. En plus, c'est à ma hauteur.
Alors c'est formidable parce que là, Odile Poncy, on est vraiment au cœur de cet herbier national. Et vous venez d'ouvrir, alors là, il faut nous présenter. Ça. Ah ben je vois des pois.
C'est une plante, en fait, c'est un arbre de la famille des légumineuses.
Oui.
C'est une famille qui est vraiment cosmopolite, répandue partout dans le monde. Mais il y a énormément d'espèces aussi dans les régions tropicales.
Mmh. Et, d'ailleurs, je vois qu'elle vient de la station des Nourra, donc ça veut dire qu'elle vient de Guyane.
Elle vient de Guyane, c'est quand même mon terrain de prédilection pour le terrain, la botanique et la récolte et l'inventaire. Une plante qu'effectivement j'ai récoltée moi-même, hein,
oui,
il y a déjà pas mal de temps, donc dans la forêt tropicale humide de Guyane. On fait un prélèvement, on le place tout simplement dans des feuilles de journal. Mmh. On presse très fort parce qu'on en récolte beaucoup dans une même journée. On met tout ça à sécher et quand c'est sec, on fixe le spécimen sur une planche de manière à pouvoir l'étudier sans l'endommager.
Alors vous en faites plusieurs, Odile, parce qu'il y a une grande tradition d'échange chez les botanistes.
Oui, ça c'est vraiment historique, c'est lié aussi à la spécificité de notre matériel d'étude. C'est vrai qu'une crevette, ça se coupe quand même un petit peu plus difficilement en deux que des branches d'arbres. Alors il y a des plantes qui sont minuscules, effectivement on ne peut pas en faire plusieurs morceaux, mais là on a la chance de pouvoir réaliser ce qu'on appelle plusieurs fragments, plusieurs parts, et du coup ça nous sert de monnaie d'échange. Donc ce spécimen-là qu'on voit, on voit qu'à la fin de l'étiquette, là on observe... Duplicata à Paris, à Cayenne, à Utrecht, donc aux Pays-Bas, et à New York. Donc ce spécimen-là, j'en ai fait 4 morceaux. Nos préoccupations, c'est vraiment d'être au cœur de la connaissance la plus fiable et la plus précise possible, de manière à ce que ces connaissances puissent être utilisées par tous les métiers qui s'intéressent.
De près ou loin
devenir,
à la plante.
Oui, et au devenir de l'humanité, oui, on et peut le dire. Mais c'est vrai que là, dans une institution comme le muséum et comme l'herbier, on est un peu au cœur de ce besoin toujours encore inassouvi de connaissances.
Au cœur de la science fondamentale, donc réouverture de cette galerie d'exposition sur la botanique, avec parcours aussi pour les enfants et pour tout le monde. Jean-Marie, je sais que vous allez vous y précipiter, si j'ose dire, donc pour revoir cet herbier. Petite réaction de votre part, Jean-Marie.
Oh, écoutez, c'était passionnant. Mon rêve a toujours été de travailler dans un grand herbier. La vie m'a fait faire d'autres choses, comme vous le savez. Mmh. Mais je connais, par exemple, la tranche de séquoia... qui date d'avant Jésus-Christ, où on a daté les grands événements de notre histoire. Les plantes ont, de ce point de vue, beaucoup de choses à nous apprendre, et j'ai eu la grande satisfaction de découvrir, de voir que mon ami Marc-André Selosse a été nommé au muséum tout récemment comme professeur précisément en biologie végétale, et nous travaillons ensemble sur cette idée de la coopération des plantes. Oui. Des symbioses, tout ce qui a été négligé pendant un siècle, disons depuis l'époque de Darwin, on ne voyait que la compétition. Maintenant, on va développer, et on développe déjà beaucoup, les symbioses et les coopérations. Et on a besoin pour cela, bien sûr, du matériel naturel, et le travail qui est mené au muséum est évidemment de la toute première importance. Je pense d'ailleurs que la collection qui doit faire quelque chose comme 8 à 10 millions d'échantillons, et peut-être la plus importante du monde, à moins que ça soit Kew en Angleterre.
Mais non, en tout cas, a priori, c'est le plus grand herbier du monde. Hein, c'est ce qui... Et Kew n'est pas très loin, donc au Royal Botanic Garden aux États-Unis. Didier Van Kovelaert.
Vous savez que étudier les plantes nous aide aussi à comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Les cellules des plantes et des arbres communiquent entre elles avec des signaux moléculaires et électriques qui ressemble furieusement à ce que nos neurones utilisent dans le cerveau pour se connecter. Mmh. Le biologiste Anthony Trewawas de l'Université d'Édimbourg a fait là-dessus des découvertes extraordinaires au moment où une plante prend une décision. Par exemple, elle est attaquée par des chenilles et elle rend ses feuilles toxiques. À ce moment-là, il y a une surproduction de calcium dans la plante. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau humain quand il prend une décision. Donc on en est toujours à cette, non seulement cette coévolution dont parlait déjà Darwin, parce que ne pas oublier que Darwin, quand on lit son autobiographie parue au Seuil en français en 2008, Darwin dit « je n'ai jamais dit », il le dit trentaine de fois, je n'ai jamais dit que la sélection naturelle était la seule explication de l'évolution des espèces.
C'est l'interprétation qu'on en a faite derrière.
Voilà, et ce sont les darwinistes qui ont souvent trahi Darwin, qui, en hommage à la symbiose, c'était d'abord un botaniste, Darwin, n'oublions pas, fasciné par la coévolution des plantes et des animaux. Donc, c'est l'aventure humaine aussi que nous raconte l'aventure des plantes et l'aventure des animaux. Et je crois que cette démarche-là, il ne faut jamais l'oublier et elle peut nous mener très loin. Lorsqu'on étudie par exemple un arbre qui marche, le palmier des Andes, qui a la faculté, lorsque tout à coup il est dans une mauvaise exposition par rapport au soleil parce que d'autres arbres ou un immeuble ont poussé et le gênent, il va changer d'endroit. Il pousse des racines extérieures qui vont le tirer dans un meilleur emplacement, tandis qu'il fait mourir ses racines précédentes. Et quand on a filmé ça, on le voit image par image, en accéléré, on voit un arbre marcher. Et la décision qu'il prend à ce moment-là, donc un comportement intentionnel, comme disent Trewawas ou Jérémy Narby, est mis en évidence. Et à ce moment-là, il y a cette surproduction de calcium, comme lorsque le cerveau humain décide quelque chose.
On va parler des abeilles dans quelques instants. Je vais quand même remettre Q-No pas aux États-Unis, mais en Angleterre, ça fera plaisir à tout le monde. Et merci à vous, Jean-Marie Pelt. Et donc, on poursuit notre voyage avec Didier Van Govelaert.
Approche-toi, petit, écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires.
Ah oui, ça date de 2002 ça. Donc Mickey 3D respire. Oh, on les entend les abeilles. Vous venez de signer un ouvrage qui est superbe avec des photos de Jean-Claude Tessier, Didier Van Govelaert, aux éditions Michel Lafon, qui s'appelle « Les abeilles et la vie ». Alors, c'est vrai, quand on pense aux abeilles, on se dit « c'est la classe ouvrière ». Pas du tout. En fait, elles ont inventé la monarchie prolétarienne.
Oui, et on n'a pas suivi cet exemple ailleurs dans la nature, non, dans les sociétés humaines, parce que oui, ce sont les ouvrières qui fabriquent une reine à partir de ce qui n'aurait pu être qu'une ouvrière. C'est-à-dire qu'elles prennent une larve ordinaire, qu'elles mettent dans un alvéole plus grand, la tête en bas, et qu'elles vont nourrir uniquement de gelée royale. Et ça va devenir une reine, c'est-à-dire la seule féconde, la seule qui va pondre dans la ruche. Et aussi parce que ces phéromones stérilisent l'ensemble des ouvrières. Et alors, il y a une grande énigme parmi les millions d'énigmes que posent les abeilles quand on se penche sur elles, comme l'ont fait Maeterlinck, Max von Frisch, Rémi Chauvin. J'ai eu la chance de connaître, d'être ami avec Rémi Chauvin et de partager avec lui des tas d'expériences, de découvertes fascinantes sur les abeilles. Cette reine qui vient au monde n'a pas de mandibule, à la différence de toutes les ouvrières. Ces mandibules qui servent à fabriquer les alvéoles, à travailler la cire, etc. Or, la reine ne fera rien de toute sa vie que se faire féconder une fois et pondre. Mais comment se fait-il que, là, je veux dire physiologiquement, oui, qu'elle naisse sans mandibule,
sans mandibule, oui.
On sait que la fonction crée l'organe, mais là, ce serait la non-fonction qui crée l'absence d'organe, alors que le matériel génétique est le même que celle des ouvrières. Et ça, j'ai posé la question à des grands spécialistes, j'ai reçu un silence radio assez embarrassé, on ne sait pas. Alors, on a découvert des tas de choses sur les abeilles. Ce sujet me fascine, évidemment, depuis 20 ans, où j'ai découvert les travaux de Rémi Chauvin et qu'on a fait des expériences ensemble. Et un jour, Michel Lafon m'appelle, l'éditeur m'appelle, pour me dire « J'ai les plus belles photos d'abeilles du monde, il faut que vous écriviez le texte. » Et il m'appelle au moment où j'étais en train d'écrire l'article « Abeilles » dans le dictionnaire de l'impossible, ouais, où je racontais l'incroyable façon de communiquer chez les abeilles, ce véritable langage.
Qui a été mis d'ailleurs en avant par Carl von Frisch. Hein,
en 1943, voilà, tout le monde a ricané, la communauté scientifique. Bon, il était prix Nobel de physiologie et de médecine, donc on n'a pas trop osé ricaner devant lui, mais on ne l'a pas cru. Et c'est en 1992 qu'il y a eu la preuve absolue qu'il avait raison. Oui, les abeilles exploratrices communiquent avec la ruche, au moyen d'une danse combinant des demi-cercles, des mouvements d'antennes et des changements de vibrations d'ailes. Et en décrivant la position du soleil, elle donne la trajectoire et la distance du nouveau butin, là où il y a des fleurs intéressantes à aller butiner. Et elles peuvent danser parfois pendant des heures, si les autres abeilles ne les croient pas. Par exemple, Carl von Frisch avait fait l'expérience de mettre de l'eau sucrée, donc
dans
l'eau
sucrée, une écuelle,
c'est du nectar, sur une barque au milieu d'un étang. Et quand l'abeille exploratrice allait raconter ça aux butineuses, les autres ne la croyaient pas, car les abeilles ont une carte mentale de leur territoire à peu près 3 km autour de la ruche.
Elle savait qu'il ne pouvait pas y avoir de fleurs
oui, au milieu de l'eau. Donc elle ne la croyait pas. En revanche, quand Carl von Frisch mettait la barque près du rivage, là, l'abeille exploratrice donnait cette indication et les butineuses y allaient, parce que ça, c'était possible. Il peut y avoir des fleurs au bord de l'eau. Donc c'est vertigineux. Et comment on a découvert en 92 que ce système de communication était une réalité? C'est Michel Sen de l'Université du Danemark et Rémi Chauvin ont construit une abeille artificielle en cuivre, et un robot avec des ailes en lame de rasoir, enduit de cire pour que la ruche les accepte. Et pendant des mois et des mois, ils ont programmé avec des logiciels, avec GPS et tout ça, cette abeille de manière à ce qu'elle puisse danser, donc sur commande, et indiquer une trajectoire et la direction en fonction des découvertes faites par Carl von Frisch, publiées en 1943. Ça a marché. C'est-à-dire que cette abeille robot a dansé au milieu de la ruche, les abeilles l'ont écoutée, entre guillemets, et elles sont allées là où l'homme a voulu les faire aller à travers cette abeille robot. Extraordinaire expérience qui a confirmé les découvertes sur le langage des abeilles de von Frisch.
Alors ça, on le retrouve dans cet ouvrage, donc Les abeilles et la vie, puis aussi donc dans votre dictionnaire de l'impossible. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour maintenant dans le Limousin, tout en restant évidemment dans le sujet des abeilles. On va aller à Saint-Sylvestre, on va aller dans ces beaux monts d'Ambazac, et on va rejoindre Éric Chabroulet. Et là, vous allez voir qu'on va avoir une parole un petit peu différente, parce que les apiculteurs aussi peuvent mener leur cheptel d'une certaine manière qui n'est pas forcément toujours évidente pour les abeilles.
Et on est au cœur des monts d'Ambazac, donc c'est un véritable écrin de verdure. Ouais. Dans lequel j'étais quand même assez fier de venir faire butiner mes abeilles. Ouais. Et puis après analyse, on rencontre des petits soucis parce que c'est un écrin de verdure, mais ce n'est que vert.
Ah.
Les fleurs ont disparu. Sur les collines, on nous a planté des résineux, ni fleurs, ni faune. Et puis les prairies environnantes, c'est des régras, donc sans fleurs aussi, entourées de barbelés qui ont énormément de mal à fleurir. Ouais. Donc forcément, pour les abeilles, finalement, c'est un peu trompeur quand même. Hein, c'est un peu trompeur.
Einstein aurait dit, si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Aujourd'hui, les abeilles ne se portent pas très bien. Depuis quelques années, elles meurent. Et pas seulement chez nous. Partout, en Europe, en Amérique du Nord ou même en Chine, plus aucune abeille ne peut survivre sans médicaments.
This is a total loss. And we don't know why.
Un tiers de ce que nous mangeons n'existerait pas sans les abeilles.
Vous faites évidemment de la transhumance d'abeilles, mais ce qui serait intéressant serait de parler aussi avec vous, Éric Chabrolet, en fait, sur le rôle de l'apiculteur. Parce qu'on sait que la disparition des abeilles, c'est un problème qui est multifactoriel entre nos émats, entre le varroa, l'acarien, entre les néonicotinoïdes, entre les pesticides, certes, le frelon asiatique aussi, vous n'y échappez pas. Mais il y a aussi le rôle de l'apiculteur. Alors là, racontez-nous, parce que la manière, on va dire, de mener son cheptel aura des conséquences.
Et oui, malheureusement, et moi je suis à peu près sûr que dans la mortalité des abeilles, surtout les mortalités massives d'abeilles, l'apiculteur a bien de responsabilité. Étant donné qu'il a joué un petit peu à l'apprenti sorcier en voulant faire des croisements, faire venir des abeilles de la planète entière et tout ça, et on se retrouve avec des abeilles qui sont beaucoup trop croisées pour pouvoir résister aux virus, aux produits de traitement et tout ça, et il y a des comportements qui sont vraiment... très très particuliers et qui font mourir les abeilles en masse au mois de mars, notamment au moment des virus. Là.
C'est-à-dire que lorsque les abeilles ressortent, il faut bien comprendre qu'elles ont faim, qu'elles sont affaiblies.
Voilà.
Il y a le froid dehors.
On est au mois de mars, on se retrouve avec une abeille au niveau vitamine qui est un petit peu à zéro, on se retrouve avec une végétation extérieure qui n'est pas luxuriante, de qualité moyenne. Tout ça fait que quand les virus passent, les abeilles meurent vraiment massivement. Quoi.
Lorsque vous parlez justement de croisement, alors on connaît l'abeille noire. Hein, donc l'abeille noire, c'était évidemment une des premières souches. Il faut saluer d'ailleurs aussi les conservatoires d'abeilles qui, elles, gardent, on va dire, la génétique de cette abeille. Plus on aura de croisements et moins il y aura de défense immunitaire, que l'on comprenne comment ça fonctionne ou...
Si on fait un premier croisement, si on prend deux races pures, qu'on les croise, on fait un stade F1, et là, on améliore tout. On fait des individus plus beaux, plus forts, plus résistants, il n'y a pas de problème. Mais comme l'abeille se fait féconder dans l'espace aérien, on ne maîtrise pas la fécondation. Donc on ne sait pas quels sont les mâles qui vont venir féconder nos reines. Et du coup, on dépasse le stade F1, on est en stade F2, F3, F4 et ainsi de suite. On va de plus en plus loin. Plus on avance dans les stades et plus on crée d'individus, un pourcentage d'individus avec des défauts, des faiblesses, des défaillances. Ça ne tient plus.
Éric, racontez-moi bien quand même le processus. Un apiculteur se rend compte qu'il ne peut pas gagner sa vie avec ses abeilles noires parce qu'il n'y a pas assez de rendement et qu'il ne s'en sort pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire ?
Dans mon cas, il a fallu que je prenne une décision qui m'a fait énormément mal au ventre de laisser tomber pour le moment mon abeille noire. Je vais y revenir après. Mais pour maintenir mon cheptel, il a fallu que j'achète carrément des essaims d'abeilles Buckfast, donc de... C'est une abeille qui a été créée par un moine dans l'abbaye de Buckfast en Écosse. Et je me suis dit, si cette abeille déjà a été créée en Écosse, vu le climat un peu proche de celui du Limousin, elle devrait tenir le coup en Limousin. Voilà. Et donc, il a fallu acheter des essaims carrément. Quoi. Et j'ai acheté des essaims dans les Landes que j'ai ramenés dans le coin. Là. Des marchands de génétique, donc des marchands d'abeilles, qui, pour gagner leur vie, vont faire croire tout et n'importe quoi à leurs clients. Et sans vergogne, venir introduire des gènes d'abeilles de n'importe où, en disant qu'elles sont meilleures, en disant qu'elles piquent moins, en disant que ceci, que cela. Et puis tout le monde tombe dans le panneau. Quoi. Avec les abeilles, ça y est, on a atteint le même niveau qu'avec les semences. pour continuer à vivre et à récolter du miel, il va falloir revenir chercher tous les ans des cellules des rennes inséminées chez le producteur de rennes et de ceci. On en est arrivé au même cirque qu'avec les semences.
Et on peut penser aussi que ce qui s'est passé sur les huîtres, ça peut être aussi un parallèle.
Ah, on est tout à fait là, qu'on parle de semences, qu'on parle d'huîtres ou qu'on parle d'abeilles, on est exactement sur le même problème.
Au-delà de ça, qu'est-ce que l'on pourrait attendre lorsque l'on voit ces différents croisements qui sont quand même gentiment incontrôlés, quoi.
Bah, je pense, moi, que si on travaillait sérieusement sur l'abeille noire, en faisant des zones très protégées, en zone de montagne, avec des vallées...
Quand vous dites protéger, par exemple, des vallées, que l'on comprenne, on les protège comment? Par quel type de barrière?
Tout simplement, on choisit des vallées avec des cols très hauts. Tout simplement, une zone qui ne va pas pouvoir être accessible par les mâles qu'on ne veut pas rencontrer. Et par contre, dans cette zone, on va donc mettre des ruches qui produisent des mâles et faire une invasion de l'espace aérien des mâles qu'on a besoin pour que les rennes, quand elles vont sortir se faire féconder, n'aient pas de pollution génétique.
On va rappeler une petite chose, c'est que la fameuse reine va se faire féconder une fois dans sa vie par plusieurs mâles, 5, 6, 7, 10 et plus si affinités,
voilà.
Que là, elle va avoir sa réserve de spermatozoïdes qu'elle utilisera tout au long de ses différentes fécondations.
Voilà, elle se fait féconder, oui, entre 10 et 20 mâles. Elle sort une seule fois, elle stocke les spermatozoïdes. Le soir, elle rentre à la ruche, elle brasse tous ses spermatozoïdes, parce que si dans le lot, il y avait un mâle qui n'ait pas des spermatozoïdes de bonne qualité, la ruche serait perdue.
Elle a une faiblesse, cette abeille, d'une manière générale, c'est qu'elle n'a pas la même capacité de détoxification que d'autres insectes qui vont pouvoir résister à des pesticides, où on sait d'ailleurs que les fabricants essayent d'avoir des pesticides qui soient moins bombardants, on va dire, moins toxiques pour les abeilles, que les agriculteurs comprennent aussi, d'abord c'est leur intérêt financier, mais pas que sur l'environnement ils ont intérêt à en mettre moins, donc ça c'est une réalité. Mais quand même, l'abeille, est-ce qu'elle peut s'adapter?
Elle a un petit souci déjà quand même. C'est vrai qu'elle est plus sensible, mais je pense que oui, si effectivement on retombait au niveau génétique quand même sur quelque chose de plus proche des origines, elle y arriverait plus facilement. Elle n'y arriverait pas forcément à 100% aussi bien que les autres insectes, mais elle ferait beaucoup mieux qu'elle peut faire à l'heure actuelle.
Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ici dans ce Limousin, Eric ?
Eh bien, que les fleurs reviennent et que nos agriculteurs nous replantent des haies partout. Et puis que d'ici une dizaine d'années, je me retrouve avec un cheptel d'abeilles noires qui tiennent la route.
Alors ce lieu est très beau, hein. C'est quand même un très beau département, celui de la Haute-Vienne, donc Éric Chaboulet, à Saint-Sylvestre, au hameau de la Chaise, miellerie du chemin des moines. Qu'est-ce que cela vous... C'est intéressant parce qu'il y a une espèce un peu parfois de loi du silence dans ce domaine-là chez les apiculteurs. Ils en parlent très peu. Hein.
Oui, ils en parlent de plus en plus. J'ai la chance d'en rencontrer beaucoup d'apiculteurs en ce moment, dans des endroits qu'on n'attendrait pas forcément. Par exemple, au Théâtre des Bouffes Parisiens, où je joue ma pièce Rapport Intime avec Macha Méry et Alain Saxe. J'ai beaucoup d'apiculteurs qui viennent, qui ont lu les abeilles et la vie, et qui me racontent des trucs incroyables. Notamment, comment les abeilles tueuses qui se sont échappées de ce laboratoire à Sao Paulo, et qui, paniquent, elles attaquent l'homme, elles détruisent les ruches, elles tuent les rennes, elles les remplacent, et elles font une nouvelle hybridation. Et on se rend compte que ce que les abeilles créent elles-mêmes à la place de l'homme dans ces nouvelles sélections naturelles, ça fait des abeilles beaucoup plus résistantes, plus agressives dans un premier temps, mais lorsqu'elles sont moins menacées, elles cessent d'être agressives. Donc là, il y a vraiment, si on observe les abeilles, un facteur d'espérance par rapport à ce syndrome d'effondrement des colonies qui est une catastrophe. Quand on voit la photo dans les abeilles et la vie en Chine, ou dans une région où l'abeille a complètement disparu, c'est l'homme qui pollinise avec des cotons-tiges, dans les arbres et avec un rendement dérisoire. Mais les apiculteurs me disent aussi, oui, c'est notre faute quand on a enlevé trop de miel aux abeilles. On leur prend tout leur miel et on leur donne des sucres industriels. Évidemment, leur système immunitaire baisse. Évidemment, elles sont sensibles aux virus, aux varroas, à cet acarien qui, à cause de l'homme, a bousillé les ruches. C'est la reine de Java, importée par l'Union soviétique dans les années 70 pour améliorer les rennes, qui étaient porteuses de ce pou qui s'est répandu partout en fuyant le long du transsibérien, qui est arrivé en France en 1984.
Le varroa.
Voilà. Donc, les dangers sont réels, on les connaît. Quand on voit que les abeilles se portent beaucoup mieux aujourd'hui en ville qu'en banlieue, parce qu'il y a plus de biodiversité, les fleurs des balcons, des ronds-points, il y a pas d'insecticides et elles résistent mieux à la pollution électromagnétique des antennes relais parce qu'il y a quelques facteurs perturbants qui sont éliminés. Donc,
on va s'arrêter là, Didier Von Kovler, parce qu'on est malheureusement déjà un peu à out au niveau du temps. Donc,
essayez de comprendre les abeilles. Permet vraiment de les sauver.
Les abeilles et la vie, on vous retrouve d'ailleurs dans quelques instants au Salon du Livre de Radio France.